Chapitre 24. Le scoop de Rita Skeeter. Le lendemain de Noël, tout le monde se leva très tard. La salle commune de Gryffondor était beaucoup plus calme que ces derniers jours. Les conversations traînaient paresseusement, ponctuées de bâillements. Hermione avait à nouveau les cheveux en broussailles et elle avoua à Harry qu'elle avait dû utiliser de généreuses quantités de potions capillaires lissemplies pour arriver à les coiffer. « Mais c'est trop de travail, je ne ferai certainement pas ça tous les jours !» ajouta-t-elle d'un air dégagé en caressant Patin Rond qui ronronnait sur ses genoux. Ron et Hermione semblaient s'être mis tacitement d'accord pour ne pas reparler de leur dispute. Leur relation était redevenue très amicale, quoique teintée d'un étrange formalisme. Ron et Harry racontèrent sans tarder à Hermione la conversation qu'ils avaient surprise entre Madame Maxime et Hagrid, mais elle fut beaucoup moins choquée que Ron en apprenant que Hagrid était un demi-géant. « Je m'en doutais, » dit-elle avec un haussement d'épaule. « Je savais qu'il ne pouvait être un pur géant parce qu'ils mesurent tous dans les 6 mètres. Mais franchement, je ne comprends pas toutes ces histoires qu'on raconte au sujet des géants. Ils ne peuvent quand même pas être tous épouvantables. C'est le même genre de préjugé qu'on a envers les loups-garous. C'est de l'intolérance, voilà tout. » Apparemment, Ron aurait bien aimé lui lancer une réplique cinglante, mais il ne voulait sans doute pas déclencher une nouvelle dispute et il se contenta de hocher la tête d'un air incrédule pendant qu'Hermione ne le regardait pas. Il était temps à présent de penser aux devoirs qu'ils avaient négligés au cours de la première semaine de vacances. Maintenant que Noël était passé, tout le monde semblait plutôt ramolli. Tout le monde, sauf Harry, qui recommençait à se sentir un peu inquiet. Vu de ce côté-là de Noël, le 24 février paraissait beaucoup plus proche. Et il n'avait encore rien fait pour essayer de comprendre l'énigme de l'œuf d'or. Chaque fois qu'il montait dans le dortoir, il le sortait de sa valise, l'ouvrait et écoutait attentivement, espérant comprendre enfin quelque chose. Il cherchait dans sa mémoire ce que ce cri pouvait bien évoquer, mais à part les scies musicales, il n'avait jamais rien entendu de semblable. Il referma l'œuf une nouvelle fois, le secoua vigoureusement et le rouvrit pour entendre si le son avait changé, mais c'était toujours la même chose. Il essaya de poser des questions à l'œuf d'or en criant pour couvrir sa plainte, mais rien ne se produisit. Il finit même par le jeter à travers la pièce, tout en sachant que cela ne lui serait d'aucun secours. Harry n'avait pas oublié le conseil donné par Cédric, mais l'antipathie qu'il éprouvait pour lui ces temps-ci ne l'incitait guère à accepter son aide, s'il pouvait l'éviter. De toute façon, il estimait que si Cédric avait véritablement voulu lui être utile, il se serait montré beaucoup plus explicite. Harry n'avait pas hésité à lui dire clairement en quoi devait consister la première tâche, et pour le remercier, Cédric lui avait simplement recommandé de prendre un bain. Harry n'avait pas besoin de conseils idiots. Encore moins de la part de quelqu'un qui se promenait dans les couloirs, main dans la main, avec Cho. Au premier jour du nouveau trimestre, Harry retourna donc en classe, chargé de ses habituels livres, plumes et parchemins, mais en sentant également peser sur ses épaules l'énigme non résolue de l'œuf d'or. La neige était encore épaisse dans le parc, et les vitres des serres étaient recouvertes d'une buée si dense qu'il fut impossible de voir au travers pendant la classe de botanique. Par ce temps, personne n'avait très envie d'aller au cours de soins aux créatures magiques. Pourtant, comme le fit remarquer Ron, les Scroots allaient sans doute les réchauffer agréablement, soit parce qu'il faudrait courir après pour les rattraper, soit parce qu'ils finiraient par mettre le feu à la cabane de Hagrid à force d'exploser de plus en plus fort. Mais lorsqu'ils arrivèrent chez Hagrid, ils virent devant la porte de la cabane une vieille sorcière aux cheveux gris coupés courts, avec un long menton recourbé.
« Dépêchez-vous, ça fait 5 minutes que la cloche a sonné !»
aboya-t-elle, tandis qu'il s'approchait d'elle en pataugeant dans la neige. « Qui êtes-vous » demanda Ron en la regardant d'un air surpris. « Où est Hagrid ?»«
Je suis le professeur Gobplanche, » répondit-elle sèchement. « C'est moi qui vous ferai provisoirement les cours de soins aux créatures magiques. »«
Où est Hagrid ?» répéta Harry d'une voix forte.
« Il est indisposé !»
répliqua le professeur d'un ton brusque. Un petit rire déplaisant retentit derrière Harry. Il se retourna. Drago Malfoy et les autres élèves de Serpentard venaient d'arriver. Ils avaient l'air enchantés et aucun d'eux ne manifesta la moindre surprise en voyant le professeur Gobplanche.
« Par ici, s'il vous plaît !»
dit le professeur en contournant l'enclos où les immenses chevaux de Beaubaton tremblaient de froid, serrés les uns contre les autres. Harry, Ron et Hermione la suivirent et jetèrent au passage un coup d'œil vers la cabane de Hagrid. Tous les rideaux étaient tirés. Hagrid était-il chez lui? Seul et malade? « Qu'est-ce qu'il a, Hagrid ? » demanda Harry au professeur Gobplanche.
« Ne vous occupez pas de ça !»
répondit-elle comme si elle trouvait sa curiosité déplacée. « Si, justement, je m'en occupe !» dit Harry avec ardeur. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Le professeur Gobe-Planche fit mine de ne pas l'avoir entendu et les emmena plus loin à la lisière de la forêt. Elle s'arrêta alors devant un arbre, auquel était attachée une grande et magnifique licorne. À sa vue, la plupart des filles poussèrent un « Oh, admiratif !»«
Qu'est-ce qu'elle est belle !»
murmura la Van Braun.
« Comment ont-ils fait pour l'attraper ? Il paraît qu'elles sont très difficiles à approcher. »
La licorne était d'un blanc si éclatant que la neige autour d'elle paraissait grise. L'air inquiet, elle frappait le sol de ses sabots d'or, rejetant en arrière sa tête dotée d'une unique corne au milieu du front.
« Les garçons, restez en arrière !»
aboya le professeur Gobe-Planche. Elle étendit le bras, heurtant Harry en pleine poitrine.
« Les licornes préfèrent la délicatesse féminine. Les filles, mettez-vous au premier rang et faites attention à l'approchant. Allons-y, tout en douceur. » Oui.
Accompagnée des filles de la classe, elle s'avança lentement vers la licorne. Les garçons restèrent en arrière près de l'enclos des chevaux et se contentèrent de regarder. Dès que le professeur Gobe-Planche fut suffisamment loin pour ne pas les entendre, Harry se tourna vers Ron.
« Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ?
Tu crois que c'est un scrout qui l'aurait ?»«
Personne ne l'a attaqué, peut-être, si c'est ça que tu crois. »
dit Malfoy de sa voix doucereuse. « Il a simplement trop honte de montrer son horrible grosse tête. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» lança sèchement Harry. Malfoy plongea la main dans sa poche et en sortit une page de journal soigneusement pliée.
« Tiens, » dit-il avec un air narquois, « désolé de te faire de la peine, Potter. »
Harry lui arracha la page des mains, la déplia et lut en même temps que Ron, Simus, Dean et Neville, qui regardait par-dessus son épaule. C'était un article accompagné d'une photo de Hagrid qui avait le regard extrêmement fuyant. L'erreur géante de Dumbledore. Albus Dumbledore, l'excentrique directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, n'a jamais hésité à confier des postes d'enseignant à des personnages très controversés, écrit notre envoyé spécial Rita Skeeter. Au mois de septembre dernier, il a ainsi engagé comme professeur de défense contre les forces du mal Alastor Maugrey dit Folleuil, l'ex-aurore dont la réputation de maniaque de la baguette magique n'est plus à faire. Une décision qui a fait lever plus d'un sourcil au ministère de la magie, compte tenu de la tendance bien connue de Maugrey à attaquer férocement quiconque a le malheur de faire un mouvement un peu brusque en sa présence. Pourtant, Maugrey Folleuil nous apparaît fort aimable et doué d'un grand sens des responsabilités comparé au personnage à demi-humain qui a été chargé par Dumbledore d'assurer les cours de soins aux créatures magiques. Rubeus Hagrid, qui avoue avoir été expulsé de Poudlard au cours de sa troisième année d'études, occupe depuis cette date les fonctions de garde-chasse de l'école, un poste ou plutôt une sinécure, créée spécialement pour lui par Dumbledore. L'année dernière, cependant, Hagrid a usé de sa mystérieuse influence sur le directeur de Poudlard pour se faire attribuer une fonction supplémentaire, celle de professeur de soins aux créatures magiques, en dépit des nombreux candidats mieux qualifiés qui auraient pu assurer cette charge. La silhouette massive et peu rassurante, le regard cruel, Hagrid a profité de cette autorité nouvellement acquise pour plonger dans la terreur les jeunes gens qui lui sont confiés, en les obligeant notamment à subir les attaques d'une succession de créatures particulièrement horrifiantes. Pendant que Dumbledore fermait les yeux, plusieurs élèves de Hagrid ont été blessés, parfois même mutilés, en suivant ses cours qui, de l'aveu de certains, sont proprement effrayants. « J'ai été attaqué par un hippogriffe et mon ami Vincent Crabbe a été mordu par un ver à crasse », nous a déclaré Drago Malfoy, un élève de quatrième année. « Tout le monde déteste Hagrid, mais nous avons trop peur pour dire quoi que ce soit. » Hagrid n'a cependant aucune intention de mettre un terme à sa campagne d'intimidation. Au cours d'une conversation avec un reporter de la Gazette du Sorcier le mois dernier, il a reconnu qu'il élevait des créatures auxquelles il a donné le nom de Scrooge à pétard, un très dangereux croisement entre des manticores et des crabes de feu. La création de nouvelles espèces de créatures magiques est, bien entendu, une activité que le département de contrôle et de régulation des créatures magiques surveille habituellement de très près. Mais il semble que Hagrid ne se sente nullement concerné par de telles restrictions. « Je voulais simplement m'amuser un peu », a-t-il déclaré avant de changer précipitamment de sujet. Comme si ce n'était pas suffisant, la Gazette du Sorcier a désormais la preuve que Hagrid n'est pas, comme il l'a toujours prétendu, un sorcier de pure souche. Il n'est d'ailleurs même pas un humain de pure souche. Sa mère, nous pouvons aujourd'hui le révéler en exclusivité, n'est autre que la géante Fridluva, dont on ignore où elle se trouve actuellement. Brutaux, assoiffés de sang, les géants se sont tellement entretués au cours du siècle dernier que leur espèce a fini par s'éteindre. Les quelques individus qui subsistaient ont rejoint les rangs de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et ont été responsables des plus effroyables tueries de moldus qui ont eu lieu sous son règne de terreur. Alors que la plupart des géants qui s'étaient mis au service de celui dont on ne doit pas prononcer le nom étaient tués par les aurores en lutte contre les forces du mal, Fridluva, elle, parvenait à s'échapper. Il est possible qu'elle se soit réfugiée dans l'une des communautés de géants qui existent encore dans les montagnes de certains pays étrangers. Quoi qu'il en soit, si l'on en juge par les extravagances de ses cours de soins aux créatures magiques, il semblerait que le fils de Fridluva ait hérité du tempérament brutal de sa mère. Curieusement, on dit que Hagrid aurait noué d'étroits liens d'amitié avec le garçon qui a mis fin au pouvoir de vous savez qui, obligeant ainsi la propre mère de Hagrid, ainsi que tous les autres partisans de vous savez qui, à s'enfuir ou à se cacher. Harry Potter ignore peut-être la vérité sur son grand ami, mais Albus Dumbledore a sans nul doute le devoir de veiller à ce que Harry Potter, tout comme ses condisciples, soit averti des dangers que présente la fréquentation des demi-géants. Lorsqu'il eut terminé sa lecture, Harry leva les yeux vers Ron qui était bouche bée. « Comment a-t-elle pu savoir ? » murmura-t-il. Mais ce n'était pas cela qui tracassait Harry.
« Qu'est-ce que ça signifie ? Tout le monde déteste Hagrid, lança-t-il à Malfoy. « Et qu'est-ce que c'est que cette idiotie sur lui ? » Il montra Crabbe, qui aurait été mordu par un Véracras. « Les Véracras n'ont même pas de dents !» Crabbe ricanait, visiblement très content de lui.
« Je pense que ça devrait mettre un terme à la carrière d'enseignant de ce gros imbécile. » répondit Malfoy, le regard étincelant. « Un demi-géant. Et moi qui pensais qu'il avait simplement avalé une bouteille de poussos quand il était petit. Les mamans et les papas ne vont pas aimer ça du tout. Ils vont avoir peur que leurs enfants se fassent manger. Vous écoutez un peu, là-bas ? »
La voix du professeur Gobplanche parvint jusqu'à eux. Les filles s'étaient rassemblées autour de la licorne pour la caresser. Harry éprouvait une telle fureur que la page de la Gazette du Sorcier tremblait entre ses mains. Il regarda sans la voir la licorne dont le professeur Gobplanche énumérait les nombreuses propriétés magiques d'une voix forte afin que les garçons puissent également l'entendre.
« J'espère qu'elle va rester comme prof, celle-là, » dit Parvati.
« Ça ressemble beaucoup plus à ce que devrait être un cours de soins en créatures magiques avec des vraies créatures comme les licornes, pas des monstres. »«
Et Hagrid ?»
dit Harry avec colère tandis qu'il montait les marches du château.
« Eh ben quoi ?»
répondit Parvati d'une voix dure. « Il peut toujours être garde-chasse, non ?» Parvati s'était montrée très froide envers Harry depuis le bal. Il pensa qu'il aurait peut-être dû s'occuper un peu plus d'elle, mais elle semblait s'être bien amusée quand même. En tout cas, elle racontait à qui voulait l'entendre qu'elle avait rendez-vous avec le garçon de Beaubaton lors du prochain week-end de Préaulard. « C'était un excellent cours !» dit Hermione lorsqu'ils arrivèrent dans le hall d'entrée. « J'ignorais la moitié de tout ce que nous a dit le professeur Gobplanche sur les lits.
Regarde ça !»
gronda Harry en lui mettant sous le nez la Gazette du Sorcier. Hermione resta interdite en lisant l'article. Sa réaction fut exactement la même que celle de Ron.
« Comment cette horrible bonne femme a-t-elle fait pour savoir ça ? Tu ne crois quand même pas que c'est Hagrid qui le lui aurait dit ?»«
Non !» répondit Harry. Il les précéda dans la grande salle et se laissa tomber sur une chaise à la table des Griffons d'Or, l'air furieux.
« Même à nous, il n'en a jamais parlé !» Elle devait être tellement folle de rage qu'il ne lui dise pas des tonnes d'horreurs sur moi qu'elle a dû se venger en fouinant partout pour trouver quelque chose sur lui.
« Peut-être qu'elle l'a entendu parler à Madame Maxime pendant le bal, » dit Hermione à voix basse.
« On l'aurait vu dans le jardin, » fit remarquer Ron. « De toute façon, elle n'a plus le droit de revenir à l'école. Hagrid a dit que Dumbledore lui avait interdit de remettre les pieds filles. Elle a peut-être une cape d'invisibilité, » dit Harry. Il tremblait tellement de colère qu'il répandit de la sauce partout en se servant de la fricassée de poulet. Exactement le genre de choses qu'elle pourrait faire, se cacher derrière des buissons et écouter ce que racontent les gens.
« Comme toi, Ron, par exemple, » dit Hermione.
« Nous, on n'essayait pas d'entendre ce qu'il disait, »
protesta Ron indigné. « On n'avait pas le choix. »
L'imbécile parlait de sa mère géante alors que n'importe qui pouvait l'entendre. « Il faut aller le voir, » dit Harry, « ce soir, après la classe de divination, lui dire qu'on veut qu'il reprenne ses cours. »« Tu veux qu'il reprenne ses cours, non ?»
lança-t-il à Hermione.
Bien sûr, je n'irai pas jusqu'à affirmer que ce n'était pas une bonne chose d'avoir un vrai cours de soins en créatures magiques, pour une fois, mais oui, bien entendu, je veux que Hagrid revienne, sans aucun doute. »
S'empressa d'ajouter Hermione, cédant au regard furieux de Harry. Ce soir-là, après dîner, tous trois sortirent donc du château une fois de plus et traversèrent la pelouse gelée pour aller voir Hagrid dans sa cabane. Ils frappèrent à la porte, déclenchant les aboiements tonitruants de Croque-Dur.
Hagrid ? Hagrid, c'est nous ! Cria Harry en cognant à grands coups. « Ouvrez !» Il n'y eut pas de réponse. Ils entendaient Croque-Dur gémir et gratter derrière la porte. Mais elle ne s'ouvrit pas. Ils continuèrent à frapper pendant une bonne dizaine de minutes et Ron alla même taper au carreau d'une des fenêtres, mais sans plus de succès.
« Pourquoi est-ce qu'il refuse de nous voir ?»
s'étonna Hermione lorsqu'après avoir fini par abandonner, ils reprirent le chemin du château. « Il n'y aurait quand même pas pensé qu'on attache de l'importance à cette histoire de géant. » Mais Hagrid, lui, y attachait de l'importance. Pendant toute une semaine, il ne donna pas signe de vie. Il n'apparaissait pas à la table des professeurs au moment des repas. Et le professeur Gobe-Planche continuait d'assurer les cours de soins aux créatures magiques. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, Malfoy ne manquait pas de lancer quelques-unes de ses plaisanteries.
« Alors, il vous manque votre copain métis ?»
murmurait-il sans cesse à Harry après s'être assuré qu'il y avait un professeur à proximité pour ne pas risquer de représailles.
« Il vous manque l'homme-éléphant ?»
Une sortie après au lard était prévue vers le milieu du mois de janvier. Hermione se montra surprise lorsque Harry lui annonça qu'il avait l'intention d'y aller. « Je pensais que tu voudrais profiter du calme de la salle commune, dit-elle. Il faut absolument que tu réfléchisses à ce que signifie cette offre.
« Oh, je crois que j'ai une idée sur la question. » mentit Harry.
« Vraiment ?» dit Hermione impressionnée. « Bravo !» Harry éprouva un sentiment de culpabilité qui lui contracta un peu l'estomac, mais il n'y prêta guère attention. Il lui restait encore 5 semaines pour résoudre l'énigme de l'œuf, c'était bien suffisant. Il préférait aller à Préaulard. S'il y rencontrait Hagrid, il arriverait peut-être à le convaincre de revenir. Le samedi, les 3 amis quittèrent le château et traversèrent le parc humide et froid en direction du grand portail. Lorsqu'ils passèrent devant le vaisseau de Durmstrang, amarré sur le lac, ils virent Victor Krum apparaître sur le pont, vêtu d'un simple maillot de bain. Il était très maigre, mais apparemment beaucoup moins fragile qu'il ne paraissait, car il monta sur le bastingage du navire, tendit les bras au-dessus de sa tête et plongea dans l'eau. « Chiff !» s'exclama Harry en voyant la tête de Krum émerger au milieu du lac. « Il doit faire un froid glacial en étant janvier !»«
Il fait beaucoup plus froid chez lui !»
fit remarquer Hermione. « L'eau d'ici doit lui paraître tiède. »«
Oui, mais il y a quand même le calmar géant, » dit Ron.
Ce n'était pas l'inquiétude qui perçait dans sa voix, mais plutôt l'espoir. Hermione s'en rendit compte et fronça les sourcils.
« Il est très sympathique, tu sais, » dit-elle. « Pour quelqu'un qui vient de Durmstrang, il est très différent de ce qu'on pourrait penser. Il m'a dit qu'il se trouvait beaucoup mieux ici. »
Ron ne répondit rien. Il n'avait plus parlé de Victor Krum depuis le soir du bal, mais le lendemain de Noël, Harry avait trouvé sous son lit un bras miniature apparemment arraché à la figurine qui portait la robe de l'équipe bulgare de Quidditch. Lorsqu'ils parcoururent la grande rue du village, recouverte de gadou, Harry ouvrit l'œil pour essayer d'apercevoir un quelconque signe de la présence de Hagrid. Voyant qu'il n'était dans aucun des magasins qui s'alignaient le long de la rue, il suggéra d'aller faire un tour aux 3 balais. Le pub était aussi bondé que d'habitude, mais Hagrid ne s'y trouvait pas. Avec un pincement au cœur, Harry, suivi de Ron et d'Hermione, se fraya un chemin jusqu'au bar et commanda 3 bières au beurre à Madame Rosemerta. Finalement, pensa-t-il avec tristesse, il aurait peut-être mieux fait de rester au château et écouter les plaintes de l'œuf d'or.
« Il n'est donc jamais à son bureau, celui-là ? » murmura soudain Hermione. « Regardez !»
Elle montra le miroir derrière le bar, et Harry vit le reflet de Ludo Verpé, assis dans un coin sombre de la salle, en compagnie d'une bande de gobelins. Verpé parlait très vite et à voix basse aux gobelins qui l'écoutaient les bras croisés, l'air plutôt menaçant. Il était très étrange, songea Harry, que Verpé se trouve aux 3 balais un week-end, alors qu'il n'y avait aucune épreuve à juger dans le tournoi des 3 sorciers. En l'observant dans le miroir, il remarqua que Verpé paraissait tendu, aussi tendu que le soir où il l'avait vu dans la forêt avant l'apparition de la marque des ténèbres. Brusquement, Verpé tourna les yeux vers le bar, aperçut Harry et se leva aussitôt. Harry l'entendit dire au gobelin qu'il revenait tout de suite et le vit traverser la salle pour le rejoindre, son visage juvénile à nouveau souriant.
« Harry, comment vas-tu ? J'espérais justement te voir, alors tout va bien ?»«
Très bien, merci, » répondit Harry.
« J'aurais voulu te dire un mot en particulier. »
reprit Verpé d'un air impatient.
« Peux-vous demander de nous laisser un instant tous les deux ?»«
Oui, d'accord. » dit Ron qui s'éloigna en compagnie d'Hermione pour chercher une table. Verpé entraîna Harry tout au bout du bar, le plus loin possible de Madame Rosemerta.
« Je voulais te féliciter une fois de plus pour ta magnifique performance face aux magiers à pointe, » dit Verpé.
«
T'es vraiment remarquable.
Merci, répondit Harry en se doutant que VRP avait autre chose à lui dire, sinon la présence de Ron et d'Hermione ne l'aurait pas tant gêné. Mais VRP n'avait pas l'air pressé d'en venir au fait. Harry le voyait jeter des coups d'œil vers le miroir pour regarder les gobelins qui fixaient sur eux leurs petits yeux en amande.
« Un vrai cauchemar, cela !»
dit VRP à voix basse en remarquant que Harry les observait aussi.
« Ils ne parlent pas très bien anglais. J'ai l'impression de me retrouver avec tous ces Bulgares le jour de la Coupe du Monde. Mais eux, au moins, savaient s'exprimer par gestes. Tout le monde pouvait les comprendre, tandis que cela ne baragouine que le gobel babil. Et moi, je ne connais qu'un seul mot en gobel babil. » Bladvac, ça veut dire pioche. Je préfère pas l'utiliser, croirais-je les menaces.
Il éclata d'un rire bref et sonore. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Demanda Harry, qui voyait que les gobelins ne quittaient pas VRP des yeux.
Oh, c'est... répondit VRP soudain mal à l'aise. Il cherche Party Croupton.
Pourquoi est-ce qu'il le cherche ici ? Il est au ministère à Londres, non ?
En fait, j'en ai aucune idée de l'endroit où il se trouve, dit VRP. Il a cessé de venir au bureau, ça fait 2 semaines qu'on ne le voit plus. D'après le jeune Percy, son assistant, il paraît qu'il est malade. Apparemment, il envoie ses instructions par hibou. Mais je te demande de n'en parler à personne, Harry, parce que Rita Skeeter continue à fouiner partout où elle peut mettre son nez, et je suis prêt à parier qu'elle va transformer la maladie de Croupton en quelque chose d'abominable. Elle dirait sans doute qu'il a disparu comme Bertha Jorkins.
« Vous avez des nouvelles d'elle ?» demanda Harry.
« Non, » répondit VRP qui sembla à nouveau tendu. « J'ai envoyé des gens à sa recherche, bien sûr. » Il était temps, pensa Harry. Mais tout cela paraît très étrange. On sait qu'elle est bel et bien arrivée en Albanie, où elle a séjourné chez son cousin. Ensuite, elle est partie voir sa tante dans le sud, et c'est sur le chemin qu'elle a disparu sans laisser de traces. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Elle n'est pas du genre à partir avec un amoureux, par exemple. Enfin, c'est pas pourquoi je te parle des gobelins et de Bertha Jorkins. Je voulais simplement te demander, reprit VRP en baissant la voix, comment tu te débrouillais avec ton œuf d'or.
Pas mal, mentit Harry. VRP parut se rendre compte qu'il ne disait pas la vérité.
Écoute, Harry, ça m'ennuie beaucoup, tout ça. Tu t'es retrouvé embarqué dans ce tournoi sans être volontaire. Et si il parlait tellement bas à présent que Harry fut obligé de se pencher vers lui pour comprendre ce qu'il disait. Si je peux t'aider, juste un petit coup de pouce dans la bonne direction. Hein, je te trouve très sympathique, tu sais. La façon dont tu as affronté ce dragon. Hein? Oh là là, il suffit de me le dire et... Harry regarda le visage rond et rose de VRP et ses grands yeux bleus de bébé.
On est censé résoudre l'énigme nous-mêmes, non ? Dit-il en s'efforçant d'adopter un ton dégagé pour ne pas avoir l'air d'accuser le directeur du département des jeux et sports magiques de violer le règlement.
Oui, bien sûr, dit aussitôt VRP. Mais voyons, Harry, ne nous cachons pas les choses. Tout le monde souhaite que Poudlard soit vainqueur, non.
Vous avez proposé votre aide à Cédric ? Demanda Harry. Un très léger froncement de sourcils dessina un pli sur le visage lisse de VRP.
Non, répondit-il. Enfin, comme je te l'ai dit, je te trouve très sympathique. Et j'ai pensé que je pouvais te proposer de...
Merci, c'est gentil, dit Harry. Mais je crois que j'ai presque résolu l'énigme de l'œuf. Encore un ou deux jours et j'aurai tout trouvé. Il ne savait pas très bien pourquoi il refusait l'aide de VRP, en dehors du fait qu'il était presque un inconnu pour lui, et qu'accepter un coup de pouce de sa part ressemblerait beaucoup plus à une tricherie que de demander conseil à Ron, Hermione ou Sirius. VRP donnait presque l'impression d'avoir essuyé un affront. Mais il ne put rien dire, car Fred et George venaient d'apparaître auprès d'eux.
« Bonjour, monsieur VRP !» lança Fred d'une voix claironnante. « Nous permettez-vous de vous offrir un verre ?»«
Non !»
répondit Ludo VRP en jetant un regard déçu à Harry.
« Non, merci, mes amis, non. »
Fred et George parurent aussi déçus que VRP qui continuait de regarder Harry comme si celui-ci l'avait brutalement laissé tomber.
« Bon, Pogleville, j'étais ravi de vous voir, tous les trois. Bonne chance, Harry. »
Il se hâta de sortir du pub. Les gobelins se levèrent aussitôt de leurs chaises et le suivirent au dehors tandis que Harry allait rejoindre Ron et Hermione. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Ron dès que Harry se fut assis. Il a proposé de m'aider pour l'œuf d'or.
Il n'a pas le droit de faire ça, s'indigna Hermione. C'est un des juges.
Et de toute façon, tu as déjà trouvé, non ?
Presque, répondit Harry.
Je ne pense pas que Dumbledore serait très content s'il savait que VRP a voulu t'inciter à tricher, dit Hermione d'un air réprobateur. J'espère qu'il essaye aussi d'aider Cédric. Non, je lui ai déjà posé la question.
En quoi ça nous intéresse que Cédric se fasse aider ? Dit Ron.
Harry approuva silencieusement.
Ces gobelins n'avaient pas l'air très amicaux, fit remarquer Hermione après avoir bu une gorgée de bière au beurre. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ?
D'après VRP, ils cherchaient Croupeton, répondit Harry. Il est toujours malade, il n'est pas retourné travailler.
Peut-être que Percy essaye de l'empoisonner, dit Ron. Il doit penser que si Croupeton se retrouve 6 pieds sous terre, il pourra prendre sa place comme directeur du département de la coopération magique internationale.
Hermione lança à Ron un regard du genre « on ne plaisante pas avec ces choses-là » et dit
« C'est drôle que des gobelins cherchent M. Croupeton, normalement. Il devrait plutôt avoir affaire au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. »
Croupeton parle toutes sortes de langues, dit Harry. Ils ont peut-être besoin d'un interprète.
Alors on se fait du souci pour ces pauvres petits gobelins maintenant ?
Demanda Ron à Hermione.
Tu pourrais peut-être fonder le RAGE ou quelque chose comme ça. Rassemblement pour l'assistance aux gobelins exploités.
Oh, c'est très drôle, répliqua Hermione d'un ton sarcastique. Figure-toi que les gobelins n'ont pas besoin de protection. Tu n'as donc pas écouté ce que le professeur Pince nous a dit sur les révoltes de gobelins ?
Non, répondirent Harry et Ron d'une même voix.
Eh bien, ils sont tout à fait capables de faire face aux sorciers, dit Hermione. Elle but une nouvelle gorgée de bière au beurre. Ils sont très intelligents, poursuivit-elle. Pas comme les elfes de maison qui sont incapables de défendre leurs propres intérêts.
Tiens, tiens,
dit Ron en regardant vers la porte.
Rita Skeeter venait de faire son entrée dans la salle accompagnée de son photographe bedonnant. Ce jour-là, elle portait une robe jaune banane et ses ongles très longs étaient recouverts d'un vernis rose vif. Elle alla chercher des consommations au bar et tous deux se frayèrent un chemin parmi la foule pour aller s'asseoir à une table proche sous le regard noir de Harry, Ron et Hermione. Elle parlait vite et semblait très satisfaite de quelque chose.
Maquan n'a pas l'air très content de vous rencontrer, tu trouves pas, Bozo ? Pour quelle raison, à ton avis ? Qu'est-ce qu'il fabrique avec une bande de gobelins accrochés à ses basques ? Il dit qu'il leur fait visiter le village, quelle idiotie, il a toujours été incapable de mentir convenablement. Tu crois qu'il mise quelque chose ? On devrait peut-être faire notre petite enquête, non ? Imagine un peu. Déshonneur pour l'ex-directeur des sports magiques. Ludo Verpet. Pas mal comme accroche, non ? Tu ne trouves pas ? Suffit de dénicher une histoire qui aille avec.
« Vous essayez encore de briser la vie de quelqu'un ?» lança Harry d'une voix forte. Quelques personnes tournèrent la tête vers lui. Lorsque Rita Skeeter le reconnut, ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes incrustées de pierres précieuses.
« Oh, Harry !» s'exclama-t-elle avec un grand sourire. « C'est merveilleux, hein ? Pourquoi ne viens-tu pas te joindre à nous ?»«
Je ne m'approcherai pas de vous même avec un balai de 3 mètres, hein, » répliqua Harry furieux. « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça à Hagrid ?»
Rita Skeeter haussa ses sourcils, soulignés d'un épais trait de crayon.
« Nos lecteurs ont le droit de connaître la vérité, Harry. Hein ? Je ne fais que mon devoir. »«
On s'en fiche qu'il soit un demi-géant !» s'écria Harry. « Il n'y a strictement rien à lui reprocher !»
Le pub était devenu soudain silencieux. Derrière le bar, Madame Rosmerta les observait sans se rendre compte que la cruche qu'elle était en train de remplir d'hydromel débordait. Le sourire de Rita Skeeter sembla s'effacer légèrement, puis s'élargit à nouveau comme si elle l'avait raccroché à ses lèvres. Elle ouvrit d'un coup sec son sac en peau de crocodile et en sortit sa plume à papote.
« Et si tu me parlais un peu de Hagrid, que tu connais, Harry ?» dit-elle. « De l'homme qui se cache derrière les muscles, hein ?»« Des raisons de votre amitié, si improbable. »« Est-ce que c'est un substitut du père pour toi, Harry ?»
Hermione se leva d'un bond, la main crispée sur son verre de bière au beurre, comme s'il s'agissait d'une grenade.
« Vous êtes horrible !» dit-elle entre ses dents serrées. « Vous n'avez aucune considération pour personne. Tout ce qui compte pour vous, c'est de trouver quelque chose à écrire sur n'importe qui, même sur Ludo Verpet. »
« Assieds-toi donc, espèce de petite sotte. Parle pas sans savoir !»
répliqua froidement Rita Skeeter avec un regard féroce.
« Je pourrais te raconter... » sur Ludo Verpet des choses, à te faire dresser les cheveux sur la tête.
Ce qui leur ferait peut-être du bien, ajouta-t-elle en regardant la tignasse d'Hermione. Venez, on s'en va, dit Hermione.
Ils sortirent tous les trois du pub, suivis du regard par les autres clients. Avant de refermer la porte, Harry jeta un coup d'œil derrière lui. La plume à papote de Rita Skeeter glissait précipitamment d'un bord à l'autre d'un morceau de parchemin posé sur la table. Maintenant, c'est à toi qu'elle va t'en prendre, Hermione. Dit Ron d'un air inquiet tandis qu'il remontait la rue d'un pas vif. « Qu'elle essaye !» s'écria Hermione d'une voix perçante en tremblant de rage. « Je vais lui montrer, moi ! Il paraît que je suis une petite sotte ! Très bien ! Elle va me le payer !» Il ne faut pas mettre Rita Skeeter en colère, dit Ron, mal à l'aise. Je parle sérieusement, Hermione, elle va dénicher quelque chose sur toi.
Mes parents ne lisent pas la Gazette du sorcier. Elle ne me fait pas peur, je n'irai pas me cacher, assura Hermione en marchant à si grande enjambée que Harry et Ron avaient du mal à la suivre. La dernière fois que Harry avait vu Hermione dans une rage semblable, elle avait giflé Malfoy. Et Hagrid ne va pas se cacher non plus. Il n'aurait jamais dû se laisser impressionner par cette pâle imitation d'être humain. Allez, dépêchez-vous.
Elle les entraîna au pas de course le long de la route, franchit le portail encadré de sangliers ailés et ne s'arrêta que lorsqu'ils furent arrivés devant la cabane de Hagrid. Les rideaux étaient toujours tirés, mais ils entendirent Croque-Dur aboyer.
« Hagrid ! » cria Hermione en martelant la porte à coups de poing. « Hagrid, ça suffit ! Nous savons que vous êtes là ! Vous n'allez quand même pas vous laisser faire par cette horrible Rita Skeeter, Hagrid ! Hagrid, sortez de là ! Vous êtes en train de... »
La porte s'ouvrit. « Il était temps !» dit Hermione qui s'interrompit aussitôt en se retrouvant face à face avec Albus Dumbledore.
« Bonjour !» dit-il avec un grand sourire.
« Nous voulions voir Hagrid, » dit Hermione d'une voix redevenue soudain timide.
« Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, » répondit Dumbledore le regard pétillant. « Mais pourquoi restez-vous dehors ?»
Oui, d'accord, balbutia Hermione. Elle entra dans la cabane suivie des deux autres. Lorsqu'il vit Harry, Croque-Dur se jeta sur lui en aboyant comme un fou et essaya de lui lécher les oreilles. Harry repoussa le molosse et regarda autour de lui. Hagrid était assis à sa table, sur laquelle étaient posées deux grandes tasses de thé. Il paraissait anéanti. Il avait le visage marbré, les yeux gonflés, et ses cheveux, passant d'un extrême à l'autre, n'avaient jamais été aussi hirsutes. On aurait dit un enchevêtrement de fils de fer. « Bonjour, Hagrid, » dit Harry. Hagrid leva les yeux vers lui.
« Jour, »
dit-il d'une voix très rauque.
« Je crois qu'il va falloir refaire un peu de thé, »
dit Dumbledore en refermant la porte. Il sortit sa baguette magique et la remua d'un geste négligent. Aussitôt, un plateau à thé apparut dans les airs ainsi qu'une assiette de gâteau. Le plateau se posa de lui-même sur la table et tout le monde s'assit.
« Est-ce que par hasard vous avez entendu ce que Miss Granger a crié tout à l'heure, Hagrid ?»
dit Dumbledore après un instant de silence. Hermione rosit légèrement, mais Dumbledore lui adressa un sourire et poursuivit.
« À en juger par la façon dont ils ont essayé de défoncer la porte, Hermione, Harry et Ron ont toujours envie de vous voir. »«
Évidemment qu'on a envie de vous voir, » dit Harry en regardant Hagrid. « Vous ne pensez quand même pas que ce qu'a écrit cette grosse truie de Skeeter... Oh, excusez-moi, professeur, » ajouta-t-il précipitamment en se tournant vers Dumbledore.
« J'ai eu un soudain accès de surdité, je n'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, Harry, »
répondit Dumbledore en se tournant les pouces, les yeux levés vers le plafond.
Reprit
Harry d'une voix contrite, « je voulais simplement dire, enfin, Hagrid, comment pouvez-vous penser que nous attachons la moindre importance à ce que cette femme a écrit sur vous ?» Deux grosses larmes jaillirent des yeux noirs de Hagrid et coulèrent lentement dans sa barbe en broussailles.
« Voilà la preuve vivante de ce que je vous disais, Hagrid !»
commenta Dumbledore qui continuait de fixer attentivement le plafond. « Je vous ai montré les innombrables lettres de parents qui se souviennent de leurs années d'école et me font savoir, en des termes dénués de toute ambiguïté, que si jamais l'idée me venait de vous renvoyer, ils auraient deux mots à me dire. »
« Il y en a d'autres, »
dit Hagrid d'une voix rauque.
« D'autres qui ne veulent pas que je reste. »
« Écoutez, Hagrid, si vous tenez absolument à susciter une approbation universelle, j'ai bien peur que vous soyez contraint de rester très longtemps enfermé dans cette cabane, »
répliqua Dumbledore, qui le regardait à présent d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en demi-lune.
« Depuis que je suis devenu directeur de cette école, il ne s'est pas passé une seule semaine sans que je reçoive au moins un hibou pour protester contre la façon dont j'assure cette fonction. Alors, que faudrait-il que je fasse? Que je me barricade dans mon bureau et que je refuse de parler à quiconque ?»«
Oui, vous n'êtes pas un demi-géant, » dit Hagrid.
« Hagrid, regardez qui j'ai comme famille !» s'exclama Harry avec fougue. « Regardez un peu les Dursley !»«
judicieuse remarque, fit observer le professeur Dumbledore. Mon propre frère, à Belfort, a fait l'objet de poursuites pour avoir pratiqué des sortilèges interdits sur une chèvre. C'était dans tous les journaux. Eh ben, est-ce qu'à Belfort est allé se cacher? Ben non, pas du tout. Il a gardé la tête droite, il a vaqué à ses occupations habituelles, comme si de rien n'était. Oh, bien sûr, je suis pas absolument certain qu'il sache lire. Bon, sa bravoure n'avait donc peut-être rien à voir là-dedans.
« Revenez faire vos cours, Hagrid, » dit Hermione à voix basse. « Revenez, s'il vous plaît, vous nous manquez. »
Hagrid avala avec difficulté. Des larmes coulèrent à nouveau dans sa barbe et Dumbledore se leva.
« Je refuse votre démission, Hagrid. Et je veux que vous repreniez votre travail lundi prochain. Je vous donne rendez-vous à 8h30 dans la grande salle pour prendre le petit déjeuner avec moi. Soyez-y sans faute. Voilà. Et vous saluez tous les quatre. »
Dumbledore quitta la cabane en s'arrêtant simplement un instant pour caresser Croque-Dur. Hagrid enfouit son visage dans ses mains, de la taille d'un couvercle de chaudron, et se mit à sangloter. Hermione lui tapota le bras et Hagrid finit par relever la tête, les yeux rougis.
« Un grand homme, Dumbledore. Oh oui, un grand homme. »«
Ça, c'est vrai, » approuva Ron. « Est-ce que je pourrais avoir un de ces gâteaux ?»«
Sur toi. »
dit Hagrid en s'essuyant les yeux d'un revers de main.
« Il a raison, bien sûr. Vous avez tous raison. J'étais stupide. Mon vieux père aurait eu honte de ma conduite. »
D'autres larmes coulèrent, mais il les essuya avec plus de détermination.
« Je ne vous ai jamais montré de photo de mon vieux père, je crois. »
Hagrid se leva et alla ouvrir un tiroir de sa commode, d'où il sortit la photo d'un petit sorcier qui avait les mêmes yeux noirs que Hagrid, avec les mêmes petites rides au coin des paupières. Un grand sourire aux lèvres, il était assis sur l'épaule de son fils. Hagrid devait déjà faire près de 2,50 m, à en juger par le pommier qui se trouvait derrière lui. Mais son visage était jeune, rond, lisse, imberbe. Il ne semblait pas avoir plus de 11 ans.
« Elle a été prise juste après mon entrée à Poudlard. Papa était fou de joie. » Il avait peur que je ne sois jamais sorcier parce que ma mère... Enfin bon, bien sûr, je n'ai jamais été très doué pour la magie. Mais au moins, il n'a pas vécu assez vieux pour me voir renvoyé. Il est mort quand j'étais en deuxième année. C'est Dumbledore qui s'est occupé de moi quand mon père n'était plus là. Il m'a trouvé ce travail de garde-chasse. Fais confiance aux gens, Dumbledore. Il leur donne une deuxième chance. C'est pour ça qu'il est différent des autres directeurs. Il est prêt à accepter n'importe qui à Poudlard, du moment qu'on est capable de faire quelque chose. Il sait qu'on peut être quelqu'un de bien, même si on vient d'une famille qui n'est pas, disons, très respectable. Oui. Et il y en a qui comprennent pas ça, ceux qui vous en veulent toujours. Et puis il y a aussi ceux qui essayent de faire croire qu'ils sont simplement de gros os, au lieu d'avoir le courage de dire... « Je suis ce que je suis, j'en ai pas honte. Ne jamais avoir honte. » Voilà ce que disait mon vieux père. « Il y en a toujours qui te reprochent quelque chose, mais ils ne valent pas la peine qu'on y fasse attention. » Et il avait raison. Je me suis conduit comme un idiot. Je ne ferai plus jamais attention à elle, cette Madame Maxime, vous pouvez me croire. Une forte ossature. Eh ben, qu'elle la garde, son ossature.
Harry, Ron et Hermione échangèrent des regards gênés. Harry aurait préféré emmener en promenade une cinquantaine de scrouts à pétard plutôt que d'avouer à Hagrid qu'il avait surpris sa conversation avec Madame Maxime. Mais Hagrid continua à parler sans se rendre compte de l'étrangeté des paroles qu'il venait de prononcer.
« Tu sais quoi, Harry ? »
poursuivit-il en levant les yeux de la photo de son père, le regard brillant.
« Quand je t'ai vu pour la première fois, tu m'as fait un peu penser à moi. » Plus de mère, plus de père, et l'impression que tu n'arriverais pas à t'adapter à Poudlard. Tu te souviens, hein? Tu n'étais pas sûr d'être à la hauteur. Et maintenant, regarde-toi, Harry. Tu es champion de l'école.
Il fixa Harry un long moment, puis reprit d'un ton très sérieux.
Tu sais ce qui me ferait plaisir, Harry?
Que tu gagnes. Voilà.
C'est vraiment ce que je souhaite. Ça leur montrerait un peu à tous qu'on n'a pas besoin d'avoir le sang pur pour y arriver. qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. Ça leur montrerait que c'est Dumbledore qui a raison en acceptant tous ceux qui ont des dons pour la magie, d'où qu'ils viennent. Au fait, comment tu t'en sors avec cet œuf ?
Bien, assura Harry, très bien. Le visage triste de Hagrid s'éclaira d'un grand sourire.
Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Montre-leur un peu, Harry, montre-leur. Oui, oui, sois plus fort que tous les autres.
Il était plus difficile de mentir à Hagrid qu'à n'importe qui d'autre. Lorsque Harry retourna au château en compagnie de Ron et d'Hermione, il ne parvint pas à chasser de son esprit l'expression de bonheur qui avait illuminé son visage barbu à l'idée que Harry puisse sortir vainqueur du tournoi. Ce soir-là, le mystère de l'œuf d'or pesa plus lourd que jamais sur sa conscience, et quand il alla se coucher, il avait pris une décision. Le moment était venu de mettre son orgueil de côté et de vérifier si le conseil de Cédric valait quelque chose.